Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, on parle gastronomie et paysage, car il est bien possible que ces deux choses-là soient liées. C'est en tout cas la thèse de mon invité, le géographe Jean-Robert Pitt. Bien sûr, on imagine toujours les plats servis dans leur décor. Derrière la galette de sarrasin, on verra bien sûr un phare peint en blanc et en bleu. La soca, elle sera servie sur une terrasse ombragée de Nice. On ne boira de cidre qu'à côté d'un champ très vert de Normandie et du rhum non loin d'une plage de Martinique. Mais s'agit-il seulement d'images stéréotypées reprises par le marketing des produits AOC, ou y a-t-il vraiment un lien charnel, vivant et véritable entre un lieu, un terroir et une certaine gastronomie? À l'heure où l'on mange sans difficulté des sushis à Reims et que l'on sabre le champagne à Osaka, eh bien réponse dans l'heure qui vient.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mon invité de ce soir est un défenseur de la gastronomie et également un défenseur de la géographie culturelle, celle qui lie les traditions et les territoires. Bonsoir Jean-Robert Pitt.
Bonsoir.
Comment est-ce que vous définiriez-vous, on va commencer par là, ce que c'est que la géographie culturelle? Est-ce que c'est l'inverse de la géographie basée sur les chiffres, les tableaux et les sciences qu'on appelle dures?
C'est l'inverse d'une géographie qui serait déterminée soit par l'environnement physique, c'est-à-dire le relief, le climat ou les sols, soit par des faits strictement économiques. C'est la géographie de la liberté. C'est finalement l'affirmation que les sociétés humaines, les individus et les sociétés humaines jouissent normalement, et c'est ça qui est souhaitable, d'une très grande liberté pour faire des choses formidables ou des choses catastrophiques, mais que on ne peut pas comprendre l'organisation de l'espace terrestre sans mettre en avant cette liberté humaine d'organiser l'espace comme les gens le souhaitent.
C'est presque politique hein, comme définition, ce que vous dites là.
Oui, c'est très politique et mais en même temps, oui, si vous voulez, oui, mais en même temps, c'est une sorte d'éloge du sens des responsabilités, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement d'une catastrophe qui nous menacerait, d'une épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos têtes avec le climat, les problèmes de l'eau, de la mer, etc. Et en fait, il y a des possibilités, il y a des techniques que les géographes étudient, que les historiens étudient aussi. Moi, je suis un chaud partisan du mariage étroit entre l'histoire et la géographie, et étudier l'histoire du climat, étudier l'histoire de l'eau, du niveau de la mer, etc., aide à trouver des solutions pour aujourd'hui. Donc, on a toujours des choix. Et pour moi, la géographie culturelle, c'est celle qui étudie ces choix qui sont des choix libres, mais ils ne sont réellement libres que si les gens sont informés et s'ils ont suffisamment de culture.
Et si on prend les mesures, évidemment, pour faire que les choses aillent mieux. Votre maître Xavier de Planol disait que la géographie répondait à une question: pourquoi ici et pas ailleurs? Qu'est-ce que ça signifie, cette formule?
Oui, les historiens essayent de dire pourquoi à ce moment-là et pas le lendemain ou la veille. Nous, géographes, notre métier, c'est d'étudier la localisation et la répartition des phénomènes à la surface de la Terre. Donc, que ce soit des montagnes, des anticyclones, des typhons, des zones de production agricole, des villes, des ports, des voies ferrées, des routes maritimes, etc. Tout ça se localise. Et donc, nous décrivons ces localisations. Et ensuite, on essaye d'expliquer pourquoi c'est ici et pas à côté. Pourquoi telle ville s'est implantée à tel endroit et pas 10 kilomètres plus loin ou 100 kilomètres plus loin. Comment sont nées les grandes métropoles par exemple. Donc voilà une vraie question de géographe.
Et d'historien, le géographe rejoint.
Je dirais que, parce qu'on nous dit parfois, mais vous êtes touche-à-tout, vous n'existez pas, vous n'êtes pas une vraie science. On a toute légitimité à s'intéresser absolument à tout. Donc aussi bien une carte des fromages, puisque on va peut-être en parler.
On y arrive.
À l'Himalaya, au tremblement de terre, au volcan, tout ce que l'on veut.
Alors le géographe est touche à tout, et vous êtes un touche à tout parmi les géographes. Hein, je vous ai pas encore tout à fait présenté, Jean-Robert Pitt. Vous êtes président de la Société de Géographie, ancien président de l'Université Paris 4, qui maintenant s'appelle Sorbonne Université, fait partie de Sorbonne Université. Vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous étiez alors. Vous êtes président de l'Académie du vin, toujours ?
Non, mais je fais partie. Ce sont des mandats non renouvelables. J'ai fait 6 ans dans les deux cas et c'est très bien comme ça. Et je continue à militer
pour le vin.
Académies et pour le vin.
Et vous publiez, cher Armand Collin, un atlas gastronomique de la France, tandis que votre histoire des paysages français est toujours disponible chez Talendier. Allez, c'est le moment de notre première séquence et de la carte introductive.
Des flèches, un plan, des ronds et des points, c'est la carte introductive.
Et c'est celle que vous nous avez transmise, Jean-Robert Pitt. On peut la retrouver sur notre site internet. C'est une carte de France constellée de fromages plus ou moins gros. Pourquoi alors cette carte et quelle corrélation peut-on faire entre les fromages et les endroits où vous les avez placés ?
Alors, il se trouve que j'ai...
La taille des fromages aussi.
Oui, j'ai enseigné au début de ma carrière la géographie économique. Et pour ceux qui s'intéressent à cette branche de la discipline, il y a une théorie qui est la théorie de von Thunen, de répartition des productions agricoles par rapport au marché de consommation. Et un jour, il y a eu, dans les années 80, un grand colloque international à Caen sur la géographie des fromages, et je voulais absolument y participer. Donc je me suis dit, je vais voir si la théorie de von Thunen s'applique à la géographie des fromages. Et en fait, ça s'applique très bien. C'est-à-dire que plus vous êtes près d'un marché de consommation, et c'est une carte, en fait, fossile, parce que ça correspond à la répartition des fromages qui existait avant la révolution des chemins de fer. Avec les chemins de fer, avec les avions, on peut transporter des fromages frais tout autour de la Terre. Vous pouvez trouver du crottin de Chavignol à Buenos Aires. Donc ça ne vaut plus aujourd'hui, sauf que cette carte s'est figée parce qu'il y a des traditions auxquelles les gens sont attachés. Mais alors, donc autour, à proximité des marchés de consommation, des grandes villes, vous avez des fromages souvent frais, et de petite taille, à une exception, le Brie, qui est un fromage frais et mou, donc qui se conserve pas très longtemps, mais de grande taille, mm-hmm. parce que le marché parisien est un grand marché. Mais sinon, ce sont des fromages frais et de petite taille, et plus vous êtes dans les montagnes, c'est-à-dire loin des marchés de consommation, plus les éleveurs, et ils sont nombreux, puisque c'est un des moyens de survivre en montagne que d'élever des bovins, font des gros fromages durs, à pâte dure, qui se conservent mieux et qu'on peut transporter une fois par an. Par exemple, au début de l'hiver, on va dans les marchés des grandes villes, et donc vous avez d'énormes fromages avec ce sont des régions dans lesquelles se sont montées des coopératives depuis très longtemps, les fruitières du Jura par exemple, et on fait des fromages de 30 kilos, 50 kilos, le Beaufort, le Cantal, bien entendu.
Le Comté.
Le Comté. et même des fromages à pâte bleue qui se conservent longtemps, comme la Fourme d'Ambert, par exemple, ou le Roquefort, qui se transportaient très bien parce que la moisissure du pénicillium permet la conservation du produit laitier.
Est-ce que la hauteur de la montagne est également proportionnelle à la taille du fromage, parce que plus on est haut et plus on est loin
plus compliqué de descendre. De toute façon les pâturages dans les Alpes par exemple étaient et sont toujours sur les alpages, c'est-à-dire entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, et donc là, avant la révolution des transports et les routes, etc., les fromagers passaient 4 mois 5 mois dans la montagne, et ils faisaient le fromage là-haut. Ces fromages, d'ailleurs, qui sont absolument merveilleux parce qu'ils ont le goût de l'herbe des alpages, et ils les descendaient à l'automne dans la vallée. Et ça a failli disparaître, parce que c'est quand même un métier très dur que de passer 4 mois à la montagne, et c'est dans les années où, par exemple, le Beaufort était en voie de disparition. Et il y a des jeunes éleveurs de la région du Beaufortin qui se sont dit, mais on va le sauver, et non seulement ils l'ont sauvé, mais ça se vend très 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 bien, et aujourd'hui, un éleveur du Beaufortin vit très bien.
Pourquoi y a-t-il des déserts fromagers que vous marquez également votre carte, d'autant qu'il y a un désert fromager dans une ancienne montagne, le massif armoricain, c'est pas très haut, mais enfin, ça devrait suivre la règle des fromages plus gros,
excellente question. Et ça, j'avais trouvé la réponse grâce à un de mes vieux maîtres décédé il y a longtemps maintenant, Pierre Flatres, qui avait travaillé sur les contrées celtiques. Et il a montré que dans les pays celtiques, donc qui sont le Pays de Galles, l'Irlande, la Bretagne, en fait, le vrai produit noble issu du lait, c'est le beurre. Et quand normalement en Bretagne, on vous met des mottes de beurre sur la table, ça a toujours été
du
beurre salé. Mais alors le sel, c'est encore une autre histoire qui est liée à la fiscalité. C'est parce que le canton de Bretagne est devenu reine de France, elle ne taxait pas le sel. en Bretagne. Et donc, quand la Bretagne a intégré la France, les rois de France n'ont pas osé imposer la gabelle aux Bretons. Ce qui fait qu'ils ont conservé le sel, tandis que les Normands, qui eux payaient la gabelle, ne mettaient pas de sel.
Sinon, on en mangerait tous du beurre salé sur l'ensemble du territoire.
En Angleterre, dans les pays anglo-saxons, on mange du beurre salé. En Amérique, on mange du beurre salé parce qu'il n'y avait pas de taxe sur le sel. Le fromage n'apparaissait pas comme un produit noble. Vous aviez le lait ribot en Bretagne, mais qui n'est pas un vrai fromage, c'est une espèce de lait fermenté. Mais sinon, on n'a jamais fait de fromage traditionnel en Bretagne. Alors maintenant, c'est une grande contrée fromagère, mais on fait des fromages industriels. Mmh. Il n'y a pas de fromage traditionnel breton, aucun.
Vous avez hésité, Jean-Robert Pitt, avec une autre carte, la carte d'une région, d'un vignoble, en l'occurrence le Vosne romanais en Côte d'Or. Pourquoi cette carte pouvait aussi raconter le paysage?
Je suis très attaché à ce vignoble bourguignon où j'ai habité, où j'ai même fait un peu de vin dans les années 90, dans les Hautes-Côtes. Mais surtout cette carte, je sais pas, elle a été mise sur le site peut-être?
Non, elle n'a pas été mise sur le site, mais on pourra la mettre sur Twitter.
La répartition de ce qu'on appelle les climats. En Bourgogne, le climat n'a rien à voir avec la météorologie. Climat veut dire petit terroir produisant un vin original avec un nom particulier et dont le goût est différent de celui du petit terroir d'à côté. Et Vosne romanais est un cas vraiment un cas d'école parce qu'il y a 9 grands crus, je crois, sur la commune de Vosne romanais, plus des premiers crus, plus des climats dans l'appellation village Vosne romanais. Et ces grands crus, quand on a la chance de les déguster, parce que malheureusement leurs prix sont devenus démentiels aujourd'hui, sont tous très différents les uns des autres. C'est produit à quelques mètres d'écart et il y a des différences majeures. Si vous avez la chance de goûter de la Romanée Conti et de l'Attache, qui sont deux terroirs qui se touchent, c'est totalement, totalement différent.
Et c'est dû à quoi? L'épaisseur du sol?
C'est dû au sol, à l'exposition, mais principalement au sol et à la pente. Et on s'aperçoit, quand on regarde cette carte des crus, des climats de Vosne romanais, que les grands crus, comme sur toute la Côte d'Or, sont tous au milieu de la pente, parce que c'est là où les sols sont les plus profonds. C'est là aussi, parce que pendant très longtemps, il faisait froid, les raisins mûrissaient difficilement, et donc pour que les raisins mûrissent bien, il fallait être sur la pente, parce que ça permet aux rayons du soleil de frapper, donc de concentrer la chaleur. Et donc les grands crus étaient au milieu de la pente, là où les sols sont les plus profonds, les plus mélangés aussi, et là où l'exposition est la meilleure, exposée à l'est ou au sud.
Mais alors, est-ce que ça se traduit dans le paysage? Est-ce que ça se voit à l'œil nu que, à certains endroits, le vin va être meilleur qu'ailleurs? Parce que l'une de vos grandes thèses, Jean-Robert Pitt, c'est de dire, si un produit de la terre est bon, c'est probablement qu'il va créer un beau paysage. Et ça, c'est pas très facile à comprendre.
Si, ça je peux... Si c'est pas planté en vigne, évidemment, vous pouvez supputer que ça va, en plantant de la vigne à tel endroit, on pourra faire du bon vin. Mais en France, il reste encore beaucoup de terroirs non plantés en vigne et qui pourraient produire des grands vins, ce que j'appelle les belles au bois dormant. Dans le Berry, par exemple, vous avez la côte du Berry au sud, où il y a très peu de vignobles, il y a Mentoux-Salon, il y a Reuilly, etc., mais où il y a très peu de vignobles et on pourrait faire beaucoup de bons vins. Mais ce qui est certain, ça c'est facile à démontrer, c'est que les beaux produits, les bons produits, et en particulier, la plupart sont d'appellation d'origine contrôlée ou protégée, comme on dit maintenant, à l'échelle européenne, créent de beaux paysages.
Toujours. Vous n'avez pas d'exemple
au
contraire.
Regardez dans le domaine des fromages, justement, je parlais du Beaufortin, mais regardez les Causses, c'est un paysage admirable qui serait totalement impénétrable si on n'y avait pas l'élevage ovin qui permet de produire le Roquefort. Tous les vignobles, beaucoup sont classés au patrimoine de l'UNESCO. D'ailleurs, les vignerons se battent pour qu'on leur construise pas d'éoliennes parce que ça gâche les paysages. Parce que quand vous achetez une bouteille de vin, vous achetez bien sûr un produit qui a une odeur, une saveur, une couleur, etc. Mais vous achetez de l'identité et du paysage.
Mais ça, c'est du matériel. C'est pas le goût, c'est l'idée que vous faites du produit que vous achetez.
Bien sûr. Mais pour un amateur, ce qui est formidable, même à l'aveugle, c'est de dire, ça doit être tel vin, et je reconnais bien. Ça vient de tel village, peut-être même de tel climat, et c'est forcément tel vigneron. Vous avez de l'humain aussi derrière un produit agricole de qualité. Et du paysage, bien entendu, parce que si vous y êtes déjà allé et que vous fermez les yeux, vous voyez l'endroit d'où ça vient. Et je suis étonné de voir dans tous les vignobles français, le nombre de touristes, en particulier asiatiques, chinois ou japonais, qui viennent admirer les paysages, prendre des photos. En Bourgogne, vous avez, il y a un livre sur la Romanée Conti en japonais qui est très très connu, qui date des années 30, où le narrateur vient boire de la Romanée Conti sur le mur du vignoble, et c'est inoubliable pour lui.
Donc, au fond, ça n'est pas tant qu'un beau paysage provoquerait des bons produits, c'est plutôt que des bons produits labellisés comme tels font que on fait attention au paysage, et que parce qu'il y a des AOC qui sont parfois très célèbres et connus dans le monde entier, finalement c'est un argument presque publicitaire, eh bien on fait attention à ce que il n'y ait pas d'éoliennes au milieu d'une vigne
d'un très célèbre, c'est ça, à Pauillac ou à Saint-Julien en Médoc, de mettre des éoliennes.
Pourtant, le goût ne changerait pas, vous remarquerez.
Absolument pas, non. Mais ce qui est important, je crois, c'est que les producteurs eux-mêmes font très attention à leur paysage, parce qu'ils savent que ça va ensemble. Et toute la publicité, tous les publicitaires le savent très bien, tous les produits agricoles de qualité, on les montre toujours, que ce soit des publicités sur papier ou télévisuelles, on les montre dans le cadre paysager. Et le nombre d'émissions de télévision qui touchent maintenant à la gastronomie, c'est toujours dans le paysage. Vous avez même des émissions, une émission où le cuisinier cuisine dans le paysage.
Alors, ça signifie que le paysage est un monument historique, que les paysages français sont des monuments historiques, et que, comme une cathédrale, par exemple, il faut les laisser dans un état qui est un état, je ne voudrais pas dire figé, mais en tout cas, un état d'une certaine époque. Enfin, ça pose les mêmes questions que pour les bâtiments historiques, selon vous.
Il ne faut surtout pas les figer, mais les monuments historiques non plus. Ça doit évoluer. Le patrimoine n'est pas fait pour être figé. Et moi, je suis très, très opposé à cette idée-là. Il doit évoluer, mais il doit évoluer avec un sens de l'esthétique et un sens de la qualité qui est indispensable, je crois. Sinon, on n'a aucun intérêt à vivre sur cette terre et à choisir une région où habiter. Enfin, le rapport à la beauté est essentiel, et pour les produits agricoles, c'est essentiel aussi.
Qu'est-ce que c'est qu'un paysage, Jean-Robert Pitt? Vous avez travaillé beaucoup sur cette notion, vous continuez sans doute de le faire. Quelle est la définition qu'on pourrait donner d'un paysage, du paysage?
Le paysage, c'est la partie émergée de l'iceberg de la réalité géographique. C'est ce qui se voit, mais pas seulement se voit. Le paysage, c'est aussi, ça se sent, ça s'écoute, ça se touche. Mais évidemment, le visuel est très important. Mais il n'est que qu'une apparence. Et pour le comprendre, il faut rentrer dans le processus d'évolution. Alors, il y a de la géologie, il y a de la climatologie, mais il y a surtout de l'action humaine, souvent depuis la très haute antiquité, depuis la préhistoire, et les transformations incessantes. Le paysage ne peut pas être figé. Le paysage doit évoluer. Par exemple, l'Angleterre est passée de l'open field au bocage à l'époque moderne. Voilà, et c'est pas du tout un scandale. C'est fait pour évoluer.
Je crois que quelqu'un qui serait d'accord avec vous, c'est Jean-Christophe Bailly.
Comment on en est arrivé là? Comment il se trouve que cette route, elle part comme ça? Pourquoi elle a cette forme? Pourquoi elle a cette vibration dans le paysage? Pourquoi il y a pourquoi, par exemple, il y a eu à un moment donné une tradition qui se perd un peu, mais pas tant que ça, des ponts et chaussées? Pourquoi il y a en France une quantité d'hypermarchés absolument exorbitante, etc., etc. Donc à chaque fois, ce sont des questions de forme, mais c'est toujours ce que l'on rencontre en chemin.
Alors, est-ce que cette question de forme, elle explique le croisement de la géographie et de l'histoire ?
Ben, évidemment que l'histoire contribue à la forme. Bien souvent, à la campagne, on a l'impression que ce que l'on voit, c'est là, comme ça, il y a une sorte de pérennité, en fait. Même les surfaces boisées, à part peut-être les quelques zones qui seraient un peu désertiques, et surtout, disons, la haute montagne, presque tout a été anthropisé, enfin résulte de contrats plus ou moins en phase avec l'actualité, plus ou moins abandonnés, avec ce que beaucoup n'osent plus appeler la nature, que moi ça me gêne pas d'employer toujours ce terme, mais disons que oui, il y a une espèce de on peut pas dire de concurrence, c'est comme espace-temps, au bout d'un moment, dès qu'on réfléchit un peu, ça se rencontre, et c'est presque pareil avec histoire et géographie.
Que vous évoquez cette parole de l'écrivain Jean-Christophe Bailly, qui était au micro de Philippe Petit dans cet entretien de 2011. Jean-Robert Pitte.
Oui, alors moi le mot nature me gêne énormément. La nature, c'est une conception philosophique, mais en tout cas pour les géographes, ça n'existe pas. Et surtout au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire un espace sur lequel la main de l'homme ne serait pas intervenue. Il n'y a aucun espace terrestre où l'homme n'est pas intervenu. Même les pôles, où vous avez des quantités de serait-ce que des déchets, vous avez le continent plastique qui se retrouve dans l'océan Arctique ou l'océan Antarctique. Donc vous avez des traces humaines. Vous savez, il y avait des explorateurs dans les années 30 qui étaient allés dans le sud de la forêt amazonienne, au Paraguay, et il y avait une tribu très 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 archaïque qu'on appelle les Guayaki dans cette région, qui vivait avec très très peu d'objets dans un état de... En fait, bon, on s'est aperçu que c'était une régression de civilisation, de cette tribu qui avait été pourchassée par les autres, et surtout, alors, les explorateurs, ils s'appelaient Veillard, avaient découvert une chose, c'est qu'au milieu de la forêt amazonienne, il y avait les orangers, en plein milieu, dans une région où aucun blanc n'était jamais allé. Et tout simplement, ces orangers étaient les orangers des réductions jésuites de la périphérie, mais souvent très très loin, à plusieurs centaines de kilomètres, et les pépins avaient été transportés par les oiseaux, et donc les orangers poussaient au milieu de la forêt amazonienne. Donc vous avez...
Donc il n'y a pas de paysage naturel, il n'y a que des paysages artificiels.
Bien sûr, et ça ne me gêne pas.
Et donc le paysage raconte l'homme,
histoire,
l'humain, dans son ouais, environnement, c'est
ça ? Raconte une histoire, et une histoire qui est parfois très harmonieuse, équilibrée au service des sociétés et des sociétés d'aujourd'hui, et une histoire parfois heurtée, épouvantable, qui est liée soit à des erreurs monumentales, soit à l'idéologie. Et je pense à ces grands ensembles, parce que tout à l'heure, M. Bailly parlait des supermarchés. C'est vrai que la France tient le pompon dans ce domaine-là. C'est nous qui en avons le plus. Bon, tout simplement parce qu'on a laissé, l'État a laissé s'implanter ces supermarchés un peu partout, et les collectivités territoriales. Mais les grands ensembles, nous sommes le pays qui en a le plus aussi, en dehors de la Chine, de la Corée du Nord et de l'ex-URSS, de la Russie d'aujourd'hui, où vous avez des hectares et des hectares de grands ensembles à la périphérie des villes. C'est la conséquence de l'idéologie de la Charte d'Athènes, qui date des années 30.
Le Corbusier
l'a rédigé. Et c'est ça qui fait qu'en France, on a créé, quand il a fallu construire beaucoup de logements au moment de la reconstruction et puis après de la croissance des grandes villes liées à l'industrialisation, on a construit les grands ensembles, alors que les Français préfèrent habiter les maisons individuelles.
Et en même temps, le périurbain, donc, que certains qualifient de HLM à plat, c'est pas non plus forcément le paysage
non.
Qui est le...
Vous parlez de l'enfer pavillonnaire, enfin des lotissements.
Je ne parle pas de tout le Paris le périurbain, mais
des lotissements de maisons individuelles.
Exactement.
Donc ça a commencé dans l'entre-deux-guerres, oui, avec les lotissements autour. Bon, il y en avait, mais c'était beaucoup moins grand qu'aujourd'hui. On peut critiquer, c'est sûr que ça, en plus ça fait des distances très très grandes comme aux États-Unis, mais il n'empêche que les Français, comme la plupart des habitants de cette planète, préfèrent habiter dans une maison individuelle que dans le collectif. Or, on a voulu imposer le collectif pour des raisons strictement idéologiques, pour forger l'homme nouveau en quelque sorte.
Alors vous êtes intéressé, quand vous avez commencé à travailler sur la géographie, avec votre thèse, vous êtes intéressé aux châtaigneraies.
Oui.
Et au paysage que crée, au fond, la main de l'homme quand l'humain, plantait des châtaigniers. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce rapport entre, on est déjà dans la nourriture avec les châtaignes,
oui, bien sûr, oui.
Et puis le paysage que créent les châtaigneraies.
en fait, c'est un sujet que mon maître Xavier Le Planol a choisi pour moi. À l'époque, on écoutait les mandarins éclairés. Moi, je voulais travailler sur la vigne et le vin. Lui m'a dit rien d'original à faire. Il avait tort, sans doute. Il m'a dit, en revanche, on ne sait rien sur le châtaignier. Or, donc, j'ai accepté ce sujet. J'ai travaillé 10 ans sur le châtaignier, de 1976 à 1986, quand j'ai soutenu ma thèse d'État. C'est, à l'époque, les thèses d'État, c'était 10 ans de travail. Et la littérature que j'avais lue en commençant laissait entendre que le châtaignier était un arbre poussant naturellement sur les sols siliceux et dans les zones de moyenne montagne humide de toute l'Europe. Et en fait, en travaillant un peu et en allant dans les archives, dans les cadastres, etc., je me suis aperçu que le châtaignier avait été planté. Et il n'y a pas de châtaigneraie naturelle, aucune châtaigneraie naturelle. Même les châtaigneraies à petites châtaignes non greffées, enfin, petits châtaigniers non greffés de la banlieue parisienne, sur la forêt de Sénart ou de le bois de Montmorency, sont des forêts qui ont été plantées non pas pour les fruits, mais pour le bois. Mais la plupart des grandes châtaigneraies, la Corse par exemple, tout l'Apennin italien, le Piémont, le Tessin suisse, les Cévennes, etc., toutes ces châtaigneraies ont été plantées et essentiellement entre la fin du Moyen-Âge, après les grandes pestes, et au moment de la croissance de la population, fin de la guerre de Cent Ans, fin des grandes pestes, et la population s'accroît. La révolution agricole n'est pas faite, donc les céréales qu'on cultive en montagne, surtout sur des sols siliceux, ont des rendements très 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 faibles, et on s'aperçoit que le châtaignier donne, si on choisit des arbres avec de beaux fruits, un aimaron, donne 2 à 3 fois plus de calories à l'hectare que le seigle cultivé sans engrais. Et donc, on plante des châtaigniers pour des raisons alimentaires. Mmh. Et en Corse,
mais
par exemple...
ce paysage de châtaigneraie a été considéré ensuite comme étant un paysage naturel.
Et il n'est pas naturel du tout, il est totalement artificiel. D'ailleurs, il est en train de redevenir... de retourner à la nature, si je puis dire, comme par exemple la castagnée de Corse, puisque plus personne ne cultive les châtaigniers en Corse, personne ne s'en occupe. Du coup, les châtaigniers attrapent des maladies, meurent, et ce sont d'autres espèces qui spontanément les remplacent. Une châtaigneraie abandonnée est une châtaigneraie qui meurt et est remplacée par d'autres espèces. L'arbre le plus fréquent avant qu'on défriche, au Moyen-Âge, c'était le chêne en France, pas le châtaignier. Là où vous voyez beaucoup de châtaigniers, c'est parce que ça a été planté.
Je ne sais pas s'il y a une recette, comment on devient Michel Bras. Disons que j'essaye d'être moi-même. Bon, je suis vraiment imprégné par mon pays, l'Aubrac, qui est un monde de tous les sens. Et c'est un peu le monde de la vérité, de l'authentique. Et c'est à ce titre, si vous voulez, que pour comprendre ma cuisine, il faut peut-être s'en imprégner pour aller jusqu'au bout. C'est une cuisine que je veux, qui est du terroir, mais je donnerai une autre dimension au mot terroir. C'est plus que le produit, c'est une façon de vivre. Les gens de mon pays, l'amitié dans mon pays, c'est pour moi c'est ça le terroir, c'est cette dimension-là que je lui ai donnée, c'est toute une philosophie de vie.
Oui, parce qu'on sent vraiment que vous coïncidez avec le paysage. Et parfois, quand on passait en voiture pour les reportages, bien moi je vous ai vu sur les sentiers, sur les drails comme on dit, en train de faire un jogging, un footing, et aussi en train de chercher peut-être des plantes.
Alors si oui, ces plantes, cette démarche originelle, je la fais. C'est une démarche originelle au prix du goût, et je l'ai faite au cours de mes promenades dans la nature. Bon, j'ai foulé pendant beaucoup de temps des plantes dont je ne savais pas l'origine, et puis un jour, par curiosité, je me suis penché, je les ai cueillies, je les ai goûtées, puis j'ai essayé de les identifier à l'aide d'amis ou autres. Oui, bon, je lis énormément, mais si vous voulez, au niveau des herbes, bon, il y a peut-être une approche technique qui s'est faite. Bon, je les ai goûtées crues. Bon, j'ai essayé d'identifier et l'arôme et le goût. Bon, après, j'ai essayé de le transposer sur ma cuisine. Certaines plantes, je n'ai pas pu les travailler à chaud. Je les ai travaillées dans leur texture originelle parce que à chaud, le goût n'était pas ce que j'avais ressenti à leur contact.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Voilà, on peut dire qu'on est vraiment à l'intersection entre gastronomie et paysage. Il le ressent, le cuisinier Michel Bras à l'Aïeul, interrogé ici par Gérard Gromer. C'était déjà en 1989. Ce lien charnel entre ce qu'il fait dans sa cuisine et le fait d'arpenter le paysage, voilà, c'est très très clair pour lui.
Oui, alors la cuisine de terroir. n'est devenue grande cuisine que, disons, dans l'entre-deux-guerres, grâce à Kurnonski et grâce au voyage en voiture. Avant, les restaurants étaient soit dans les grandes villes, là où on pouvait.
Alors, comment vous définissez la grande cuisine ? C'est quand même très subjectif.
La grande cuisine, la cuisine élaborée, complexe, avec des ingrédients harmonieusement mariés entre eux, avec des sauces qui est la base de la grande cuisine française, a été inventée telle qu'on l'a connaît ou qu'on la connaissait, parce qu'elle est malheureusement un peu démodée aujourd'hui, inventée sous Louis XIV, qui a voulu sortir de la cuisine médiévale avec énormément d'épices, de saveurs acides, peu de légumes. Et donc Louis XIV a voulu créer une cuisine, un peu comme il a voulu créer un style architectural, un style de jardin, de musique, etc., de vêtements, donc un art de... un des beaux-arts, il a fait de la cuisine un des beaux-arts.
Essentiellement donc avec de la crème et du gras.
La crème, du beurre, des viandes blanches, davantage de légumes qu'auparavant, et en supprimant la plupart des épices et des verjus, des vinaigres qui étaient très présents dans la cuisine médiévale. Mais Paris et la cour et l'aristocratie faisaient venir des produits de l'extérieur, mais pas énormément. Les transports étaient difficiles, donc
il y avait le potager du roi.
Oui, bien sûr, on cuisinait les produits de la région Île-de-France, essentiellement à Versailles. Bon, après, on a commencé sous Louis XV, sous Louis XVI, à faire venir des produits d'un peu plus loin. Par exemple, sous Louis XVI arrive le foie gras du Sud-Ouest, qui était un produit purement local, qu'on ne connaissait pas à Paris. Louis XIV n'a jamais mangé de foie gras. Les vins voyageaient, mais pas de très loin. On buvait pas de... Louis XV est le premier roi à avoir bu un verre de Bordeaux. Il a dit, c'est pas si mal que ça, mais il a continué à boire du Bourgogne, comme Louis XVI, et c'est seulement sous Napoléon III que le Bordeaux commence à gagner les grandes tables parisiennes. Mais les cuisines de terroir, c'est vraiment Kurnonski qui a inventé ça. C'est le moment du guide Michelin aussi, où on commence à dire ce restaurant vaut l'arrêt, vaut le détour, donc, ou vaut le voyage.
C'est lié à la voiture.
C'est lié à la voiture essentiellement, et au tourisme dans les campagnes. Et donc Kurnonski a mis à la mode cette idée de manger les produits du terroir, et un certain nombre de grands chefs ont amélioré les recettes locales, comme par exemple Fernand Point avec le gratin dauphinois à Vienne en Dauphiné. Et donc, dans les années 1970 et 80, là, ce reportage date des années 80, vous m'avez dit de Michel
89.
Bras. 89. Michel Bras a été le premier à vouloir utiliser aussi des produits sauvages, entre guillemets. Parce que c'est le début aussi de la... Goemio avait, dès 68, mis à la mode le naturel, entre guillemets, donc pas de recettes trop compliquées, il faut retrouver le goût du produit. Mais lui est allé plus loin, et ça correspond exactement à ce qui domine aujourd'hui dans les restaurants étoilés de toute l'Europe et même un peu du monde entier, c'est d'aller chercher des produits sauvages, pas seulement les champignons, mais aussi les petites herbes. Et lui a inventé, je crois vers 1978, son plat phare qui est le gargouillou de jeunes légumes, qui est une salade dans laquelle vous avez une vingtaine ou une trentaine, ça change tous les jours d'ailleurs en fonction de ce qu'il trouve dans la montagne. Il part avec son grand chapeau, il met les herbes dans son grand chapeau et ensuite il met ça sur l'assiette, mais presque brut.
Oui. Alors précisément, l'époque est à la relocalisation des productions. On essaie de consommer quand même le plus possible localement. Ça risque de changer un petit peu les goûts. Il peut y avoir, comme vous l'expliquez dans votre atlas gastronomique de la France, des goûts régionaux. Est-ce que vous imaginez qu'on retourne un petit peu vers cela ? Peut-être pas pour la majorité, oui, mais pour une partie de la consommation.
Il y a une enquête qui a été faite récemment, donc il y a eu incontestablement une montée de la consommation des produits locaux, mais ce qui n'est pas inintéressant, hein. Moi je suis très très, très favorable à cela, à condition de ne pas en faire une religion. D'abord parce qu'il y a des produits qui viennent de loin et qui font vivre les populations, je pense au thé, au café, à la vanille, aux fruits tropicaux. Bah heureusement que certains pays ont ces produits-là pour vivre. Si on décide.
Mais quand il s'agit des carottes, par exemple, peut-être que c'est mieux que ce soit consommé
bien
localement.
Bien entendu, sauf que vous avez des carottes exceptionnelles dans certains terroirs, comme les carottes de Créance en Normandie, et que si vous faites des carottes râpées avec des carottes industrielles produites à très gros rendement avec énormément d'engrais, ça n'aura pas le même goût qu'une salade de carottes avec des carottes de Créance. Alors elle est plus chère, la carotte de Créance, mais et en plus c'est dans un beau paysage en Normandie, sur des sols sableux, avec la mer qui est devant, c'est merveilleux. Regardez les pommes de terre. Dieu sait si c'est un produit qui paraissait vulgaire et pas noble, qu'on ne servait pas dans les grands restaurants. Robuchon est le premier, dans les années 80, à avoir remis la purée de pommes de terre à la mode. Bon, c'est vrai qu'avec autant de beurre que de pommes de terre dans la purée, mais la pomme de terre est redevenue un produit noble. Et aujourd'hui, vous avez des pommes de terre de terroir qui vendent très cher. La bonnotte de Noirmoutier, ça vaut 10 € le kilo.
C'est ça que vous avez voulu montrer dans votre atlas gastronomique de la France, Jean-Robert Pitt. Quel était le projet, au fond? Quel était l'enjeu pour vous avec cet atlas?
Les géographes ont une manie, ils font des cartes. Et c'est formidable, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le géographe explique pourquoi les choses sont là, mais il étudie aussi la répartition des phénomènes. Et la répartition, ça veut dire des frontières. Des frontières qui sont parfois très marquées, comme vous avez dans cet atlas toutes les cartes des appellations d'origine contrôlée, à peu près, je crois qu'elles y sont toutes.
Elles sont bien réparties sur l'ensemble du territoire?
Oui. Enfin, il y a des régions où il y en a un peu plus, mais vous avez des appellations d'origine contrôlée partout, que ce soit de produits solides ou de produits liquides, et elles ont des frontières très marquées qui correspondent à des lois d'ailleurs. Hein. C'est dans le journal officiel, telle commune peut faire du camembert de Normandie, celle d'à côté ne peut pas le faire. Nous fabriquons des cartes et ensuite on se pose des questions. Tiens, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on mange traditionnellement, c'est plus vrai maintenant, mais c'était le beurre dans la France du Nord, la graisse de porc ou de canard dans la France du Sud-Ouest et l'huile d'olive dans la France du Sud-Est. Donc on se dit, c'est à cause du climat et tout ça. Pas uniquement. Il y a des questions purement culturelles et c'est un peu comme les accents. L'accent du Nord et pas l'accent de Provence. En matière alimentaire, c'est la même chose. Il y a des goûts particuliers qui correspondent à des identités culturelles.
Mais en effet, c'est une série de cartes qui est en effet historique, parce que quand vous expliquez qu'il y a certains pains qui sont de certaines régions et de pas d'autres, aujourd'hui on a l'impression que c'est plus le cas. On a l'impression qu'on mange à peu près le même pain du nord de la France jusqu'au sud et d'est en ouest. Donc il y a des choses comme ça que les flux ont modifié.
La baguette qui vient d'être classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, l'art de la baguette de pain à la française, était auparavant vraiment d'Île-de-France et des régions voisines, et correspond aux besoins des grandes villes aussi, parce qu'on peut acheter du pain tous les jours frais, tandis que les gros pains de campagne qui pèsent 1 kg ou 2 kg sont des pains destinés à être gardés pendant plusieurs jours. Et d'ailleurs,
c'est la même chose
pas de
fromage,
pain frais. Oui. On ne mangeait pas de pain frais, le pain devenait ce qu'on appelle de la soupe. La soupe n'est pas un liquide, comme on le croit souvent. La soupe, c'est la tranche de pain qu'on met au fond de son assiette.
C'est ça qu'on dit mouillé comme une soupe, parce qu'en fait,
trempé comme une soupe.
Trempé comme le pain.
Oui, alors, ça existe encore un tout petit peu avec la soupe à l'oignon, où on met du pain avec de la soupe par-dessus, mais c'est en train de disparaître. Peu de gens mettent du pain dans la soupe aujourd'hui.
Alors, en bon géographe, Jean-Robert Pitt, vous faites des échelles différentes de toutes vos cartes. Vous faites, par exemple, une carte de Paris avec ce que vous appelez les grands restaurants de Paris, et on se rend compte qu'ils ont aussi une géographie particulière. Pourquoi et où sont-ils situés, restaurants de Paris?
Ça a beaucoup évolué. Le phénomène restaurant qui est né à Paris, il y a toujours eu des auberges ou des tavernes où on pouvait manger en dehors de chez soi, dans le monde entier, ça existe. Hein. Le Japon est le pays au monde où on mange le plus en dehors de chez soi depuis très très longtemps, depuis plusieurs siècles. Mais le restaurant, qui est un établissement où on a une carte et on choisit ses plats, où on sert sur une nappe avec un maître d'hôtel, etc., c'est une invention parisienne de la fin du XVIIIe siècle et qui s'est beaucoup développée pendant la Révolution. Curieusement, la Révolution qui a cassé un certain nombre d'habitudes de l'Ancien Régime a aussi créé de nouvelles choses qui ont été récupérées par la bourgeoisie. Et le restaurant s'est beaucoup développé autour du Palais Royal parce que la Constituante et puis après la Convention siégeaient aux Tuileries. Et le quartier où il y avait le plus recherché par les touristes, enfin les étrangers ou les gens qui n'avaient pas d'hôtel particulier à eux, et les députés n'avaient pas d'hôtel particulier, c'était le Palais Royal. C'est là aussi où il y avait la prostitution. Et donc vous avez sous la Révolution une quinzaine de restaurants et de cafés où l'on mange café-restaurant sous les arcades du Palais Royal. Alors après, ça s'étend sur les grands boulevards, ça suit la mode et ça suit quand même, les quartiers de les quartiers riches, les quartiers huppés.
Et encore aujourd'hui, parce qu'il y a sur votre carte plus, une concentration des restaurants dans les
alors
quartiers
les restaurants
plus riches
étoilés,
de l'Ouest.
Si on ne prend que les restaurants étoilés, c'est plutôt le 8e, 7e arrondissement. En revanche, vous avez une nouvelle bourgeoisie, je peux dire, qu'on appelle Bobo aujourd'hui, et qui, elle, veut sortir, mais d'une part, elle n'a pas les moyens, et surtout, elle n'a pas envie, même si elle avait les moyens, elle n'a pas envie d'aller dans un restaurant trop chichiteux. Et donc, qui a entraîné, par exemple, un développement incroyable de la restauration, alors très créative et souvent un peu déconstruite dans la culture contemporaine, dans le 11e arrondissement. Vous allez du côté de Charonne, vous avez ça touche-touche des restaurants assez chers quand même, mais pas aussi huppés que les restaurants 3 étoiles où vous mangez pour 500 euros. Mais là, des restaurants où il faut quand même mettre une centaine d'euros pour pouvoir se nourrir et qui sont très très recherchés par cette clientèle, nouvelle clientèle cultivée et qui n'a pas très envie de faire la cuisine chez elle, en tout cas une fois par semaine à la rigueur, mais qui a les moyens d'aller au restaurant entre amis.
Alors, les restaurants 2 ou 3 étoiles au Michelin, à l'échelle de la France, on voit aussi qu'ils sont répartis géographiquement en dessous plutôt, hein, d'une ligne qui irait de Bordeaux à Strasbourg. Il y a évidemment quelques 2 et 3 étoiles de l'autre côté de cette ligne, mais on remarque quand même cette tendance. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison à
ça? Oui, bah la restauration gastronomique s'est beaucoup développée avec le tourisme, comme je le disais tout à l'heure, en voiture, et par conséquent, vous savez, il y a une chanson de Trenet qui dit « On est heureux, National 7 ». Et la National 7, si vous regardez les guides Michelin des années 30 ou des années 50, à partir du moment où le Michelin commence à recommander des restaurants, c'est le long de la National 6, de la National 7, sur la Côte d'Azur, dans les Alpes, là où les gens allaient faire du tourisme. Personne n'aurait eu... Michel Braque, qui est à l'Aïeul, il faut aller à l'Aïeul, hein, quand même, dans l'Aubrac, c'est une aventure d'aller là-bas. Mais c'est une nouvelle génération de restaurants qui sont implantés dans des endroits impossibles, au milieu de nulle part, comme disent les anglo-saxons, et qui ont attiré une clientèle venue du monde entier.
Donc sur cette route du soleil, on poussait comme des champignons des étoilés, ce qui signifie que maintenant ils vont pousser du côté de l'Atlantique aussi, parce que tout le monde va en vacances sur ces côtes-là.
Un chef qui a réussi à se créer une réputation importante par la presse, par la presse gastronomique ou la radio, la télévision, enfin, qui est un peu médiatique, est capable aujourd'hui, mais c'est beaucoup de travail, hein, mais est capable d'attirer les gens, même et au milieu de nulle part. Vous avez à Fonjoncouze un restaurant, c'est près de Carcassonne, mais perdu dans les Corbières, qui a 3 étoiles et qui attire la terre entière. C'est plus difficile d'aller à Fonjoncouze ou à l'Aïeul que d'aller à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, vous avez 15 restaurants étoilés. Mais là, il y a la clientèle, il y a tout ce qu'il faut. C'est Megève, pareil, ou Courchevel.
Le problème du paysage, c'est toujours les autres qui le font. Hein. On est dedans, comme dans une peinture, peinte par quelqu'un d'autre. Donc on le subit, on l'apprécie si on l'aime, on le regrette si on ne l'aime pas. Mais le paysage, c'est une œuvre, c'est quelque chose qui est fabriqué, qui est transformé, qui est la preuve du travail humain. C'est une façon de savoir ce qu'on a fait et ce qu'on a défait. Car un paysage, c'est les deux. On peut le faire, on peut reboiser, on peut déboiser, on peut transformer. Moi, je vois que à Sassy, enfin, de ma simple fenêtre, en 30 ans, le paysage a changé plusieurs fois d'aspect. Il y a un bois là où il n'y en avait pas il y a 30 ans. Il n'y en a plus là où il y en avait un. Et même la couleur a changé selon les modes des cultivateurs. Il y a eu des époques bleues, avec le lin. Il y a eu des époques, maintenant c'est l'époque jaune, avec le colza. Il y a des époques brun terne, brun ocre avec le maïs. Et des époques flavescentes, comme on disait chez Virgile, avec les blés mûrs. Alors ça, c'est le paysage qu'on subit. Et pour le reste, celui dans lequel nous serions responsables, celui qui consisterait à vouloir qu'il nous aime aussi, ça, je crois que c'est une chose qui n'appartient pas qu'à un seul homme.
Elle est bien un poète, Jean-Robert Pitt, en l'occurrence Jacques Lacarrière, dans Le Pays d'ici, qui évoquait son petit village de Sassy en Bourgogne, au micro de Sylvie Andreu, en 89 toujours, pour parler du paysage, de ses couleurs et du rapport avec la gastronomie.
J'aime beaucoup ce qu'il dit, qui est totalement vrai, ça change tout le temps, mais puisqu'on parle ici ce soir, et je vous en remercie, parce que c'est un sujet qui m'est cher, du rapport entre paysage et gastronomie, je vais prendre un exemple dans les Vosges. Le Munster, qui est un des fromages merveilleux de France, le bon Munster, le seul bon Munster, c'est le Munster d'altitude, qui est fait sur ce qu'on appelle les hautes chaumes. Les hautes chaumes, ce sont les défrichements au sommet des ballons. Des Vosges, hein, au-dessus de l'Alsace et de la Lorraine. Et ces défrichements sont des défrichements artificiels. On a défriché pour avoir des pâturages et pour élever des bovins et par conséquent pour avoir du lait et faire du fromage. Parce qu'il y avait un marché, soit dans les villes lorraines, soit dans les villes alsaciennes. Mais si vous abandonnez, si vous n'achetez plus de Munster, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de vaches et la forêt va repousser. C'est évident.
Donc la consommation de nos produits, voilà. C'est évidemment comme cela qu'on influe sur
manger du Munster, manger du Beaufort, vous allez entretenir les alpages et les estives et les pâturages.
Et à l'inverse, manger du fromage industriel et vous allez créer un paysage industriel, ça va.
Vous allez créer des grands espaces avec des animaux qui n'ont même plus besoin de sortir, parce que l'intérêt d'avoir des animaux qui mangent de l'herbe, c'est que le lait prend le goût de terroir, si je puis dire. Alors, en plus, il y a les races qui comptent.
Mais c'est
si
pas qu'il y a du Beaufort d'été et du Beaufort d'hiver.
Par exemple,
qui n'a pas le même goût
ça,
en fonction
goût,
du goût de l'herbe.
Pas la même nourriture. Mais pour faire du fromage industriel, je ne vais pas en nommer ici, mais pour faire du fromage industriel, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'il y a du lait qui a une telle proportion de matière grasse, c'est facile à produire. On nourrit avec des tourteaux de soja, et, bon, un peu de foin quand même. Enfin, et le lait n'a en aucune manière le goût de terroir.
C'est quoi un terroir d'ailleurs? On n'a pas encore défini ce mot qui semble si évident, Jean-Robert Pitt, mais qui ne l'est pas forcément.
Un mot qui est très très français, comme gastronomie d'ailleurs, qui est un mot grec, mais vraiment qui a été remis à l'honneur au début du 19e siècle par les Français. Terroir, c'est ça a un rapport avec le paysage d'ailleurs, parce que c'est un espace géographique donné qui a une personnalité particulière sur le plan, certes, de son paysage, mais de ses productions agricoles et aussi de son identité culturelle. C'est-à-dire que
ça va forcément ensemble, l'identité culturelle va avec le paysage et cela définit un terroir.
Ça fait partie. Qu'est-ce que c'est qu'un beau paysage? Un beau paysage, c'est le paysage dans lequel vous vous trouvez bien. Quand on entend Jacques Lacarrière parler de son paysage de Sassy, visiblement il est chez lui, il se sent bien, même s'il est heureux quand il va bourlinguer en Grèce, dans les îles grecques. Quand il ouvre sa fenêtre et qu'il voit ce paysage, il se sent chez lui, il se sent apaisé et il se sent bien. Et je trouve qu'on devrait tous, ceux qui aménagent les paysages, parce que chacun peut aménager son paysage un tout petit peu, hein, par son jardin, la peinture sur sa maison. On a tous
Mais le jardin
d'action.
Du voisin n'est pas forcément aménagé comme on aimerait qu'il ce soit.
Je pense que quand on fabrique du paysage, alors à plus forte raison si on a un pouvoir de décision, si on donne des permis de construire, si on est ingénieur, si on est un élu puissant, si on est un investisseur qui fabrique des supermarchés, on devrait toujours penser, est-ce que le paysage que je vais fabriquer pour les autres est un paysage dans lequel ils vont se sentir bien? C'est pas, parce que souvent, on pense à un besoin immédiat. pour mettre une usine parce qu'on a besoin de produire ceci ou cela. Mais on peut faire de belles usines ou des usines extrêmement moches qui gâchent les paysages. Il y a eu ce grand débat autour de la centrale nucléaire de Chinon qui finalement a été classée dans le périmètre patrimoine mondial de l'UNESCO du Val-de-Loire parce que les gens l'avaient accepté et trouvaient que ça faisait partie de leur paysage.
Mais il y a la question aussi du paysage industriel parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'anciennes usines qu'on considère comme étant du patrimoine et qu'on finit par regarder avec des yeux qui font qu'on les trouve belles.
Alors oui, ça c'est parce qu'on projette un regard esthétique contemporain sur des choses qui auparavant étaient quand même des espaces pas de souffrance mais de travail plutôt dur. Aujourd'hui on est dans un grand débat sur la durée du travail quand on voit les carreaux miniers du Nord-Pas-de-Calais qui sont classés aussi au patrimoine de l'UNESCO ou les terrils, faut voir la souffrance qu'il y a derrière les conditions de travail au moment de la révolution industrielle. Donc on peut rêver et je trouve formidable qu'on se réapproprie ces objets et ces vestiges, mais on leur donne une autre vie.
Et peut-être en lien avec une gastronomie ouvrière aussi.
Bien sûr, oui.
Voilà, qui est une mémoire.
Oui, tout à fait. Les gamelles des ch'tis, les gamelles des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, il y a une gastronomie, bien entendu, oui. Mmh. Oui. Je pense que on doit se réapproprier absolument tout ça, et c'est pas gênant qu'on le détourne un tout petit peu. On peut pas continuer à faire vivre les objets ou les recettes, c'est pareil. Enfin, le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, il est fait pour évoluer. Sa perception, la manière dont on le reçoit aujourd'hui, dont on le fait vivre, doit évoluer.
Alors, une manière de continuer à faire vivre le patrimoine, c'est de créer des cités gastronomiques, comme il y en a de plus en plus en France. Il y en a une à Lyon,
il y en a quatre.
Il y en a aussi à Dijon, il y en a une qui est en construction, en élaboration à Rungis, près de Paris. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon, au fond, de mettre en bouteille la gastronomie française ? Est-ce que ça fait du bien à une gastronomie vivante ?
C'est un sujet qui m'est cher parce que j'ai contribué avec un certain nombre d'amis à faire classer, reconnaître par l'UNESCO le repas gastronomique des Français, non pas pour dire on a la meilleure cuisine au monde, mais pour dire aux Français, vous devez reconquérir votre cuisine, allez au marché, achetez des produits, cuisinez vous-même, invitez vos amis avec votre propre cuisine ou votre famille. Et dans le dossier qu'on avait préparé pour l'UNESCO, donc la décision UNESCO date de 2010, on avait, et c'est la France qui s'engageait auprès de l'UNESCO, on devait créer une cité de la gastronomie et on pensait l'équivalent de la cité du cinéma, de la cité des sciences, de ce qui existe autour d'un certain nombre d'éléments de notre culture. Et donc on a lancé un appel d'offres en 2012 pour créer cette cité de la gastronomie. Il y a eu en fait un certain nombre de réponses et en accord avec les ministères concernés, c'est-à-dire culture et agriculture et la présidence de la République, on a choisi 4 villes qui avaient des dossiers consistants et pour créer ces cités de la gastronomie. En fait, il n'y en a qu'une qui a ouvert réellement, complètement, c'est Dijon.
Et Lyon un petit peu ?
Lyon a fermé.
Donc elle a ouvert, mais depuis elle a fermé.
Mais je ne veux pas ici rentrer trop dans le détail. Dijon est un bon exemple, parce que c'est l'ancien hôpital de la ville qui est tout près du centre-ville, magnifique bâtiment, qui était abandonné, puisqu'il y a un nouvel hôpital maintenant. Et le maire de Dijon et son équipe, Rebsamen et son équipe, ont vraiment monté un projet intéressant qui met en valeur non seulement les produits bourguignons, mais tout l'art de bien vivre et de bien manger, avec des espaces culturels où on apprend des choses et les espaces où on consomme, où on déguste, où on apprend à cuisiner. Il y a une école de cuisine aussi. Donc il y a tout un ensemble d'activités à la fois sérieuses et ludiques autour de ce patrimoine gastronomique français.
La Tour aussi, qu'on n'a pas cité.
Alors Tour n'a que la partie intellectuelle, qui est l'Institut européen d'histoire des cultures de l'alimentation, la Villa Rabelais, qui est un très bel instrument. C'est d'ailleurs de cet endroit qu'est née l'idée de faire reconnaître par l'UNESCO le repas gastronomique français. Mais la partie concrète, pratique, qui devrait se situer autour des Halles, est encore en devenir et c'est pas très simple comme situation.
Voilà, et puis Rungis 2026.
Alors Rungis, ça a mis très longtemps à émerger, mais ça y est, les choses sont parties. Il y a maintenant une entreprise qui est chargée de bâtir cela. Et puis à Rungis, il y a les Halles qui sont juste à côté. Hein, et donc, bien sûr, les Halles, c'est un moyen de mettre en valeur ce patrimoine gastronomique des Halles dans lesquels le grand public ne peut pas pénétrer.
Et là, pour le coup, Rungis, alors c'est vraiment l'exemple de la déterritorialisation complète, parce que Rungis, c'est le marché de la France entière, voire d'une partie
du monde
de l'Europe, peut-être même du monde entier.
Du monde entier,
donc là, il n'y a plus de terroir quand même.
Si. Ben si, parce que si vous achetez des saumons d'Écosse, ils viennent bien d'Écosse, ils viennent bien de quelque part. Donc les ananas, ils n'ont pas le même goût à Hawaï et au Nicaragua. Donc il faut quand je fais mes courses, je regarde toujours et je demande. Là, en ce moment, c'est la saison des oranges et des mandarines. Je n'achète pas d'oranges et de mandarines sans regarder d'où ça vient. Je trouve d'ailleurs que les Corses sont trop chers par rapport aux Espagnols et aux Italiennes.
Ah d'accord, c'est le conseil que vous nous donnez donc ce soir, Jean-Aubert Pitt. Il faut boycotter Corses parce qu'elles ont leurs petites feuilles. C'est vrai que ça donne envie de les acheter plutôt que les Espagnols, mais c'est du marketing.
Je trouve qu'elles sont trop chères.
Il y a d'autres musées de la gastronomie, tout petit, l'écomusée du Pruneau, vers Agen.
Oui,
il y a une carte partout, d'ailleurs partout. Dans votre atlas qui les répertorie, peut-être tous d'ailleurs. Vous avez
normalement,
chercher...
ils y sont tous. On m'a dit, il y en a un qui a fermé récemment, je ne sais plus lequel. Mais...
Alors, je ne sais pas si c'est le musée du bonbon Haribo, par exemple, qu'on voit sur l'une de vos cartes, ou le musée de la vache et des alpages de Frangy. En tout cas, il y a une multiplication de ces musées.
Il y a les écomusées dans lesquels il y a toute une partie alimentation et gastronomie aussi.
Donc là, on parle de géographie aussi parce qu'on parle de tourisme et on parle de développement d'un territoire.
Ben, la France est la première destination touristique au monde, la plus fréquentée, et une des motivations, il y a deux motivations principales, c'est les paysages et la gastronomie. Que ce soit les Chinois, les Américains qui se déplacent en France, ils viennent pour voir de beaux paysages, des monuments éventuellement, des musées, mais de beaux paysages et de une gastronomie qui a une réputation mondiale, qu'on le veuille ou non. C'est pas par hasard que dans beaucoup de pays du monde, les banquets officiels, les banquets d'État, ont des menus qui sont rédigés en français. Y compris le roi d'Angleterre, lorsqu'il organise un repas à Windsor, le menu est rédigé en français.
Donc il y a un enjeu d'image très important.
Évidemment.
Il faut représenter les paysages et la gastronomie française. Voilà. Donc tout cela, ça compte dans le PIB, au fond, parlons géographie économique un petit peu, mais de la France.
Je pense à autre chose en matière de paysage. Il y a une pièce de Pagnol qui a donné un film magnifique d'ailleurs, qui s'appelle Cigalon. Et le héros de cette pièce de Pagnol dit à un moment donné, oui, il se balade dans la campagne provençale avec sa famille, qui est fatiguée, etc. Ils arrivent à un point haut avec un superbe paysage, mais il n'y a rien à manger. Et il dit, mais à quoi sert un beau paysage s'il n'y a pas de restaurant? Et c'est vrai, quand vous êtes dans un restaurant et que vous avez une belle vue, mais Michel Brasse a magnifiquement profité de la belle vue qu'on a. Parce qu'avant, il était dans le village de l'Aïeul. Maintenant, il est perché au Suquette, au-dessus de l'Aïeul, en pleine montagne. Vous avez une vue à 360 degrés qui est absolument incroyable. Et on mange le paysage parce qu'on l'a dans son assiette. Alors en plus, comme c'est des petites fleurs qu'il a ramassées dans la...
On le mange pour de vrai.
On le mange pour de vrai.
Un bon géographe fait des points, mais aussi des flèches. Quelles sont les régions qui exportent le plus la gastronomie française? Est-ce que c'est le vin, le champagne, peut-être le cognac?
Le champagne est évidemment comme le cognac, mais le cognac, le problème, c'est que les Français n'en boivent plus.
90 ou 95% du cognac est exporté aux États-Unis ou en Chine.
En Chine, beaucoup. Alors le champagne, les Français continuent à en boire pas mal. Il y a 300 millions de bouteilles qui sont produites, et il y en a plus de 200 millions qui sont exportés. Les grands vins sont devenus tellement chers parce qu'il y a une pression de la demande qui est énorme qu'aujourd'hui ils sont largement exportés. Il y a très peu de grands vins de Bourgogne qui sont bu en France.
Parce qu'on ne peut pas acheter en France, ou très peu de gens peuvent s'acheter.
Oui, en tout cas, même les gens. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de connaisseurs en vin en France. Alors, si on n'a pas beaucoup de moyens, quand on est fonctionnaire comme moi, on peut trouver des vins de terroir pas trop chers et absolument merveilleux, et pour des prix très très raisonnables. Mais les grands vins qui sont des vins d'émotion, qui sont des vins de sensations très très fortes, sont tellement chers qu'il faut vraiment en avoir envie, casser sa tirelire, ou avoir de gros moyens. Mais les gens qui ont de gros moyens ne sont pas toujours des grands connaisseurs. Je ne veux pas vous citer de noms, mais je peux vous dire qu'il y a, parmi les milliardaires français, il n'y a pas énormément de connaisseurs en vin. Hélas, oui. Hélas. Et sur le plan des cuisines régionales, celle qui a le rayonnement le plus fort, en dehors de Paris bien entendu, mais qui n'est pas une cuisine de terroir, c'est des produits de partout qui viennent à Paris, c'est la Provence. C'est la Provence qui a su jouer.
C'est une région très célèbre dans le monde entier.
Oui, mais l'image de la Provence, la cuisine provençale est une invention du 19e siècle. C'est comme la langue provençale qui a été réinventée par Mistral et par les Félibriges. La cuisine provençale est une invention très récente. La tomate n'était pas consommée en Provence avant 1850.
Ben voilà encore d'autres cartes que vous nous montrez et nous proposez dans cet atlas gastronomique de la France, Jean-Robert Pitt, que vous venez de faire paraître chez Armand Collin. Et puis un autre livre qui est un classique, Histoire du paysage français, toujours par vous, Jean-Robert Pitt, disponible celui-là aux éditions Talendier. C'était Géographie à la carte, Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis, Mathieu Garrigou-Lagrange, Étienne Rouche.